C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Je commence ce matin par cette nouvelle qui est tombée hier, une décision, celle du juge Jean-Jacques Gagné au Palais de justice de Montréal, qui accorde l'absolution à Simon Lamarre. Simon Lamarre, c'est un professeur de 40 ans qui était un enseignant de 5e année au primaire, l'école Notre-Dame-de-Grâce, et qui faisait son doctorat en éducation. Pendant 3 ans, il a filmé les parties intimes de jeunes femmes et d'adolescentes. C'est quelqu'un, et on l'a vu durant le procès, qui, sur le plan sexuel, peut être considéré comme un déviant. Et le juge lui accorde l'absolution, ce qui veut dire pas de casier judiciaire, en disant qu'il n'est pas dans l'intérêt public de neutraliser le savoir de l'accusé et de se priver d'une quinzaine d'années d'études ou de travail universitaire. Si c'était, quoi, quelqu'un de moins utile à la société, un quidam, la sentence serait différente. Et là, on ne parle pas d'un cas isolé, on ne parle pas d'un événement qui est arrivé une fois dans une vie, puis quelqu'un pourrait dire, ben, je sais pas pourquoi j'ai fait cette connerie-là, j'étais sous l'influence. Non, on parle de quelqu'un qui, pendant 3 ans, a fait ça. Et il a arrêté quand il a été pris en flagrant délit à la station de métro Villa Maria. Et c'était le genre de gars qui se promenait dans l'escalier mobile, l'escalier roulant, puis il filmait comme ça, en croisant des adolescentes principalement. Puis on sait que Villa Maria, il y a beaucoup d'ados qui transitent par cette station de métro. Et là, on nous dit que c'est donc dans l'intérêt public. La Couronne et la Défense n'avaient pas demandé des sentences très, très sévères. Mais on voulait quand même, du côté de la Couronne, qu'il y ait un casier judiciaire. Parce que monsieur nous explique qu'il regrette que c'est un peu de la faute d'une relation toxique qu'il avait avec sa conjointe et que son état d'égarement a duré pendant 3 ans. Sérieusement, là, on a cru ça. Et la presse nous dit ce matin que le juge ne tient pas compte de plusieurs éléments contenus dans le rapport, notamment l'hostilité envers les femmes, difficulté de sévère intensité pour les intérêts sexuels déviants envers les adolescents et le fait qu'ils représentent également un risque modéré ou faible de récidive. C'est à n'y rien comprendre. On va en discuter plus à fond ce matin. Mais bref, on ne comprend rien dans cette décision-là. L'absolution, j'ai vu ça dans des causes où on trouvait que le casier judiciaire avait un impact démesuré pour quelqu'un qui pourrait perdre son emploi pour une infraction mineure, qui pourrait être déporté pour un crime vraiment mineur, c'est une sentence disproportionnée. Mais là, on ne parle pas de ça, là. On parle d'un gars qui a écœuré, qui a filmé, puis qui a fait des victimes. Indirect parce que n'était pas au courant, mais quand même, pendant 3 ans. C'est ça qui est absolument renversant dans cette décision. Entre-temps, vous avez, allons aux États-Unis, Ghislaine Maxwell, qui est accusée de trafic sexuel, d'avoir été l'organisatrice du milliardaire Jeffrey Epstein. Et hier, on a commencé, donc, la poursuite qui a présenté ses arguments en disant que c'était une rabatteuse, que son travail était de séduire des jeunes filles, de les convaincre de venir chez Epstein, bref, de les attirer et d'aller comme ça leur dire pour quelques dollars, si vous acceptez de faire un massage à M. Epstein, ben ça va être bien. Puis tu sais, c'est le pouvoir de l'argent. Puis ça se passait autant en Floride qu'à New York. Grosse maison, le luxe. Et bien sûr, dès que la jeune femme se retrouvait ou la jeune fille se retrouvait avec Epstein, ben ça virait en agression sexuelle. Tandis que la défense tente de dire « Epstein s'est enlevé la vie, vous l'avez perdu, vous n'êtes pas capable de l'accuser, donc Mme Maxwell devient bouc émissaire. » Et c'est pas vrai ce qu'on prétend. Elle a été la compagne d'eux, elle l'a fréquenté comme bien des gens. Mais le rôle qui est dépeint par les accusatrices, les quelques jeunes femmes qui aujourd'hui portent plainte, c'est de la fiction. Et que ces jeunes filles-là savaient très bien ce qu'elles faisaient, même si elles avaient 14, 15 ou 16 ans. Revenons sur l'événement de Québec. Il y a une enquête qui est celle du service de police. Il n'y a pas d'enquête indépendante comme telle qui a été décrétée, mais il y a un élément important ce matin. C'est dans Le Devoir, le copropriétaire du bar, le Dagobert, où ça s'est passé, là, dans le stationnement, vient contredire la version de la police. Donc, lors de l'opération, tôt samedi matin, Jean-Frédéric Laberge affirme que c'est faux de prétendre que des employés ont demandé aux policiers d'intervenir. Bref, qu'on a appelé le 911 parce qu'on avait du trouble. Et il prétend que c'est pas arrivé. Il dit qu'il a parlé aux employés, il n'était pas là ce soir-là, mais il a parlé aux employés, il a regardé les images des caméras vidéo. Et il dit c'est complètement faux de prétendre que des employés ont demandé aux policiers d'intervenir pour sortir des clients puis qu'il y avait donc un problème dans l'établissement. Il dit que les policiers avaient déjà deux policiers sur place dans le stationnement. Puis quand ça s'est mis à brasser un peu plus, bien là, ils ont demandé du renfort, puis d'autres autopatrouilles sont arrivées. Alors, il dit essentiellement, la police, je cite, était stationnée devant la porte avec une voiture fantôme. On ne les a pas appelés. Ce sont eux qui sont sortis de leur véhicule et ils ont appelé les renforts. Alors, la police avait dit que les policiers avaient été appelés par le personnel du Dagobert à la suite d'une bataille à l'intérieur. Donc, c'est pas du tout la même version qui a été donnée. C'est dans Le Devoir que vous retrouvez ça ce matin. Et ça vient comme changer un peu beaucoup la donne. Et on a vu jusqu'à maintenant qu'une vingtaine de secondes, ces images qui ont été captées. Monsieur Laberge a également dit que l'expulsion de 6 ou 7 clients a été décidée après que l'un d'eux a donné un coup de poing à un autre client à l'intérieur. Ils sont tous sortis. Il n'y a pas eu d'escarmouche. Et il prétend qu'une fois à l'extérieur, ça se passait correctement, que les jeunes parlaient, qu'ils ne voulaient pas quitter, ça chiolait un peu. Mais tu sais, une fermeture de bar à 3 heures du matin, on sait un peu comment ça peut parfois déraper, puis ça donne lieu à des jeunes qui ne veulent pas s'en aller, surtout qui venaient de se faire expulser. Et ils faisaient partie d'une groupe de dizaines de personnes, puis là, ils attendaient que les autres sortent de l'établissement. Et il dit que l'auteur du fameux coup de poing à l'intérieur est un ami du jeune pacifique Nio Cuisera. Et c'est lui qui, vous le savez, a été arrêté de façon musclée là, par les policiers et qui a reçu des coups, la neige au visage et tout ça. Et puis en parallèle, vous avez l'humoriste Eddie King qui a annoncé hier soir sur sa page Facebook qu'il annule 2 spectacles qui étaient prévus à Québec. Des spectacles privés devant des bénévoles et des policiers de la ville de Québec. Il dit dans le contexte, vous comprendrez qu'avec ce qui s'est passé, je ne peux pas, à mon âme et conscience, donner ces représentations, et je le cite, sachant que des gestes odieux ne sont toujours pas l'objet de sanctions. Alors voilà pour le dossier, les derniers éléments dans le dossier de Québec. Un mot sur le portrait démographique du Québec. C'est intéressant, là, c'est dans la presse, selon les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec. Une population au Québec de 8 575 000 personnes, première chose qu'on peut dire. Deuxièmement, Montréal a un taux faible d'accroissement démographique. Moins d'immigrants et de résidents non permanents, avec la COVID, on le sait, les frontières étant assez étanches. Les Montréalais aussi ont été les plus touchés par la pandémie. Mais ce que ça montre, c'est qu'il y a plus de gens qui quittent Montréal au profit de d'autres régions. Et il y a également d'autres régions qui ont vu leur croissance un peu ralentir, mais c'était des régions là, en forte expansion. On peut penser à Laval, on peut penser à la Montérégie. Mais ce qu'on remarque, c'est que les Laurentides, Lanaudière, puis on peut penser aussi qu'avec l'effet pandémie, c'est-à-dire que les gens ont décidé de quitter Montréal, de se trouver plus loin, puis le télétravail. Donc, c'est vrai que ça a un impact sur le profil de la métropole. Également, l'âge moyen au Québec, 42 ans, 42,6, une augmentation de 4 ans depuis 2001. Et on remarque également qu'on a des immigrants qui sont nettement plus scolarisés. La question, c'est est-ce qu'on est capable de reconnaître finalement leur niveau d'éducation pour leur permettre de faire ce pour quoi ils ont été formés dans leur pays. Bon, on va parler COVID, on va parler du variant Omicron. Quelques éléments, je pense, c'est important de savoir. D'abord, pour ce qui est de ce côté virulent, des caractéristiques comme telles du variant, les scientifiques disent, donnez-nous 2 semaines et peut-être un peu plus pour qu'on ait un portrait là, plus précis de ce variant et de son impact. Il y a un certain nombre de médecins qui prétendent que les cas qui ont été détectés, puis là, vous voyez, il y en a un peu partout dans le monde, il y en a un au Québec, mais c'est sûr, avec les gens qui ont circulé, puis on peut penser que ce variant est déjà dans la société, circule, si on veut, depuis le mois d'octobre. Mais ce qui est donc important de dire, on n'aura pas de portrait précis avant un certain temps. Est-ce qu'il est plus ou moins dangereux que les autres? Est-ce qu'il est pareil? Puis comment les vaccins réagissent à ce variant? Ce qui fait que les autorités de santé publique invitent les gens au maintien des règles sanitaires de base. Le port du masque, la distanciation, lavage de mains. Et, par exemple, pour les activités intérieures, qui sont de plus en plus nombreuses, on peut penser repas entre amis, famille, pas plus de 10 personnes. Premier point. Deuxième point, on sait qu'on a fermé les frontières avec 8 pays d'Afrique. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, et on le voit que les Américains embarquent pas là-dedans, parce qu'ils veulent pas pénaliser l'Afrique du Sud, qui est en fait le pays qui a découvert ce variant et qui a alerté la planète. Puis une des craintes, c'est que si on pénalise en fermant les frontières comme ça, puis en bloquant les vols, peut-être que d'autres pays ne seront pas intéressés à lever la main en disant « on vient de trouver un variant pour, sur le plan économique, subir un embargo ». Sujet à réflexion. Donc, ce que le ministre Dubé disait hier, en gros, si vous n'avez pas de voyage essentiel à faire, c'est mieux de ne pas en faire. Mais surtout, puis là, on est dans la période des fêtes, là. Plein de gens ont réservé. Plein de gens doivent partir quelque part entre le 15 décembre et le 15 janvier. Puis là, je ne parle pas de ceux qui sont déjà partis. Attendez-vous peut-être, je dis bien peut-être, à des règles plus strictes au retour. Là, actuellement, ça varie selon le pays où vous allez, mais ça vous prend le passeport vaccinal, donc la preuve de double vaccination. Ça vous prend un test, 72 heures. Il y a des pays, c'est 48 heures. Et quand vous revenez actuellement, vous devez passer un test aussi avant. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'avec ce variant, on pourrait imposer aux voyageurs, malgré tout ça, là, toutes les mesures qui existent, une quarantaine? Point d'interrogation. La décision n'est pas prise. C'est dans le cours du fédéral, ça. Et le ministre Duclos n'était pas disponible ce matin pour nous parler. On nous dit qu'il y a une décision qui devrait venir dans les prochains jours. Alors, pour ce qui est des voyages, gros point d'interrogation. Et hier, c'était assez tranchant de voir d'un côté le premier ministre Legault dire « Je souhaite que pour Noël, on puisse faire des parties à 25, recevoir bien du monde. » Puis dans l'après-midi, on n'était pas là du tout, là. Et là, il a dit, M. Legault, « Ouais, mais il faut que la santé publique nous donne son accord. » Le propos de M. Arruda hier était un peu différent. C'était, on ne le sait pas. Peut-être qu'autour du 6 décembre, semaine prochaine, ça, on va être en mesure de vous le dire. Mais on attend d'avoir un portrait plus juste. Alors, est-ce que ça va prendre 2 semaines pour évaluer le variant? Plus que ça? Et quelles seront donc les règles? Alors, il y a des bonnes nouvelles parce que la vaccination se passe bien. On dit qu'en gros, 33 % des enfants sont déjà vaccinés ou ont déjà un rendez-vous de vaccination. Et aussi, pour ce qui est de la 3e dose pour le personnel de la santé, je pense que ça s'en vient. Et l'autre nouvelle hier, Québec finit par croire que les tests rapides sont utiles. La santé publique a donné le feu vert, puis là, on va en commander 10 millions au fédéral. Je rappelle qu'on en a eu un paquet, puis que ça a dormi dans les entrepôts. Et là, on veut les utiliser dans les garderies, où on le sait, les bébés ne sont pas vaccinés. Et donc, les tests rapides pourraient permettre de détecter des cas qui seront par la suite confirmés par un test, plus classique, là, le fameux test PCR. Alors, c'est comme une première étape, un premier filtre. Puis j'espère qu'on va en distribuer dans les familles pour les parties. Puis, tu sais, que le monde se teste un peu. On a des appareils pour tester l'alcool, des ivresomètres comme ça pour avoir. Puis c'est pas parfait, là, mais ça te donne une idée si tu as trop bu ou pas. Mais on peut savoir la même chose. Ces millions de tests rapides, me semble que ça pourrait être, disons, assez utile. Et peut-être un mot, le dernier volet là-dessus, c'est la vaccination à travers le monde. Dr Liu en parle beaucoup, mais d'autres de l'Organisation mondiale de la santé. Quand vous regardez le niveau de vaccination dans des pays, par exemple, des pays africains, c'est très, très faible. L'Afrique du Sud, à 25 % est un des pays les plus vaccinés. Mais beaucoup d'autres pays, c'est autour de 7 ou 8 %. Et cette pandémie ne sera jamais derrière nous tant que sur le plan de la planète, il n'y aura pas, disons, une augmentation, puis disons un taux de vaccination plus élevé. Maintenant, la liste des patients en attente de traitement. Le Journal de Montréal qui nous sort ça ce matin. En gros, c'est une augmentation pour les chirurgies là, qui ne cesse d'augmenter. Donc, les gens qui attendent pour des opérations. Puis là, peu importe la spécialité, ce qu'on voit, c'est que l'attente est quand même très longue pour les patients. Au Québec, 18 563 personnes sont en attente depuis plus d'un an. Alors que le 29 février 2020, c'était 2645. Alors, c'est évidemment tous les cas repoussés, reportés, attribuables à la pandémie. Et donc, on pense qu'on va se retrouver facilement là, avec des gens qui attendent et qui attendent pour être opérés. Puis comme c'est pas vital, mais ça affecte la qualité de vie, disons que ça presse pas. Toujours santé, on a présenté hier des rapports d'inspection à la coroner Gayane Kamel. Puis en gros, ce qu'elle a dit, c'est qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Des données incomplètes. Des rapports qui tiennent pas la route, il manque des éléments, il y a des questions. Une job tout croche, à la lumière et à la capacité du mammouth de la santé sur le plan de l'information. Combien de médecins me parlent des ratés du dossier de santé électronique? T'sais, l'incapacité pour le ministre de la Santé d'avoir des informations précises de son mammouth parce que la machine est archaïque, lourde, puis pas très, très... disons, agile et flexible. Et finalement, au parc Michel Chartrand de Longueuil, il y a une soixantaine de cerfs de Virginie qui seront abattus. Il paraît qu'on n'a pas le choix. Le parc est en perdition. Il y a une population qui se renouvelle et que les bêtes, on ne peut pas vraiment les transporter. Alors, danger de propagation aux usagers du parc de parasites. C'est un vecteur de bactéries. Alors, la seule chose qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est d'euthanasier les bêtes en question.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Une décision qui fait beaucoup réagir. Simon Lamarre est un professeur et aussi un voyeur. Pendant 3 ans, il a filmé des jeunes femmes, des adolescentes, filmé des parties intimes, 3 ans, je le répète, alors qu'il était en parallèle enseignant en 5e année du primaire à l'École Notre-Dame-de-Grâce et terminait son doctorat en éducation. Le juge qui a rendu sentence, le juge Jean-Jacques Gagné, après avoir écouté la couronne et la défense, dans les deux cas, recommandait des sentences assez faibles, différentes, mais très faibles. Il a conclu, et je le cite, « Qu'est-ce qui est le plus rentable socialement, selon le juge? Ben, c'est de ne pas nuire et de ne pas priver la société de son savoir. » Autrement dit, c'est quelqu'un, un enseignant, quelqu'un qui a des années de scolarité, pourquoi nous priver de sa compétence si on lui impose un casier judiciaire? On essaie de comprendre tout ça avec nos deux invités, Nicole Gibeault, ex-juge de la Cour du Québec. Bonjour, Mme Gibeault.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Et Maître Conrad Laure, qui est avocat criminaliste. Maître Laure, bonjour.
Oui, bonjour.
Je commence avec vous, Nicole. D'abord, nous expliquer ce que c'est que l'absolution, qu'est-ce que ça veut dire, puis dans quel contexte on l'utilise.
Bien, l'absolution, évidemment, ça fait partie là, des sentences potentielles. Et c'est dans le cas où, effectivement, on va, à la toute fin, là, on sous-pèse l'intérêt véritable de l'accusé. C'est rare qu'il n'y ait pas d'intérêt véritable. Et le terme, c'est « sans nuire à l'intérêt public ». Et souvent, on entend, et c'est ce que je lis dans l'article, ça ne nuira pas ou l'intérêt public n'en sera pas affecté, mais c'est à mon avis, c'est deux choses différentes. Alors, la conséquence de cette absolution-là, M. Arcand, c'est qu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard des infractions. C'est déjà quelque chose. Mais il y a une étude, je pense qu'on est assez large maintenant sur les absolutions conditionnelles et inconditionnelles. Puis on parle de casier judiciaire, mais ça s'efface pas comme ça. Là. Il y a quand même une période de 3 ans que la gendarmerie royale, ça va s'effacer après 3 ans, là, si effectivement il y a des conditions avec une probation après l'approbation, puis après 1 an s'il n'y avait pas de conditions. Mais il y a plusieurs critères et facteurs à prendre en considération, et dans ce dossier-là, à mon avis, c'est très clément. Dans les circonstances, vous avez indiqué d'emblée en commençant que c'est sur une période de 3 ans. Déjà là, le facteur pour moi, c'est assez dérangeant. Je dis pas que c'est pas une décision là qui pouvait pas se faire, mais c'est le message que ça donne, tu sais, le message que quelqu'un avec beaucoup d'études peut-être en bénéficier, mais on a besoin de tout le monde dans la société, même ceux qui ont de grandes études. Là.
OK. Maître Laure, est-ce que ça veut dire, là, parce qu'on pourrait à première vue l'interpréter comme ça, comme c'est un universitaire qui enseigne, qui a beaucoup d'années de scolarité, on est moins sévère que c'est un quidam là, qui n'a pas, disons, le même type d'impact dans la société?
Ben, écoutez, moi, je ne le vois pas tout à fait comme ça, mais Mme la juge a raison. C'est sûr que c'est clément. Il ne faut pas oublier une chose, hein, le procureur de la Couronne qui représente l'État, lui ou elle a suggéré une peine qui n'était pas vraiment beaucoup éloignée de l'absolution conditionnelle qu'on a imposée. Une sentence suspendue, la seule différence, c'est la notion de condamnation. Parce que le poursuivant semblait s'être dissatisfait, de ce que je comprends, des rapports d'experts. Ça, c'est pas... Il y a eu plusieurs rapports d'experts qui ont été déposés et on semblait être convaincu de la poursuite qu'il ne présentait pas un risque au point tel que de le punir sévèrement. Parce que dans le fond, la sentence suspendue qu'une probation, c'est pas une peine qui est très sévère. Je pense, je suis pas juge, là, que le juge a sous-pesé également l'intention du poursuivant de ne pas le condamner à outrance. Et là, il a fait peser l'intérêt véritable. Mais qu'il soit universitaire ou non, qu'il soit superviseur dans une entreprise, qu'il y a une famille, il a démontré que la condamnation pouvait lui nuire. Dans ce cas-là, il perdrait son emploi. Mais c'est sûr que le fait d'avoir un certain savoir, d'avoir une certaine compétence, ça joue dans l'intérêt véritable de l'accusé. Alors,
OK, mais pour qu'on se parle en français, là, un chômeur, est-ce qu'il aurait eu une sentence plus sévère qu'un professeur?
Je ne suis pas certain qu'il y aurait la sentence, le procureur aurait demandé plus. Mais est-ce que le juge aurait imposé une absolution? Ben, il faut regarder si son intérêt véritable, si ça va lui nuire dans ses acquis. Un chômeur, quant à moi, aurait plus de difficulté d'avoir une absolution. Pas parce qu'il est chômeur nécessairement, mais ça dépend du chômeur. Si c'est quelqu'un qui a un degré universitaire, qui cherche de l'emploi, qui frappe aux portes, que finalement ça va lui nuire, ben ça aussi, c'est un élément que le juge...
Mais Maître Laure, moi, je veux vous entendre, Nicole Gibault l'a soulevé, poser un geste une fois, deux fois, mais pendant 3 ans où son mode de vie était un mode déviant, pour photographier à leur insu des jeunes femmes et des adolescentes. Là, on ne parle pas d'une erreur de parcours. Là.
Ben, si vous me demandez au sens pur de l'infraction décrit comme ça, c'est très clément, personnellement. Mais je n'étais pas assis dans la salle de cours, je n'ai pas vu les rapports d'experts. Là, le juge, lui, a supposé également, je n'ai pas entendu les arguments du procureur de la Couronne, mais je reviens à ce que je disais. Le procureur de la Couronne n'a pas demandé de la prison discontinue, des travaux communautaires. J'imagine qu'on a encadré l'individu avec un suivi, puis on s'est dissatisfait. Donc, la ligne entre les deux sentences proposées était pas très large, était assez mince. Là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quand le juge a dû évaluer tout ça, il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec un individu qui semble avoir assez d'acquis pour que la société en profite, autre qu'évidemment les gestes malheureux qu'il a posés, mais il y a peut-être des coupables. Alors, c'est ça que le juge a dû évaluer.
Non, mais des gestes malheureux, il les a posés pendant 3 ans, je dis.
C'est... Non, mais mais je comprends ce que vous dites. Vous me demandez maintenant, c'est sûr que c'est très clément. Est-ce que j'aurais posé la même peine? Je ne sais pas, je ne suis pas juge.
Non, je comprends.
Est-ce que j'aurais suggéré la même chose comme procureur de la Couronne? Je ne le sais pas non plus. Mais il faut regarder que l'État qui poursuit a décidé de ne pas être sévère à son égard. Là, le juge a dû évaluer d'autres critères que Mme la juge Gibault a mentionné. Mais pour le commun des mortels, quand on regarde ça et on lit ça, on se dit « ouais, c'est très clément ».
OK. Nicole Gibault, quand vous regardez quand même le profil de l'individu qui, plaide coupable, mais met son comportement sur le dos d'un climat toxique avec son ex-conjointe, On nous le présente comme étant quelqu'un dans l'article de la presse, là, comme quelqu'un avec un risque faible ou modéré de récidive. Est-ce que ça veut dire que techniquement, ce gars-là, après les en fait, pas maintenant, mais dans les prochaines années, il peut retourner enseigner dans une école primaire?
Bien, ça va vraiment dépendre du milieu scolaire, là. Comment ils vont jauger la situation, comment ils vont évaluer...
Mais il est obligé de leur dire?
Ah ben, de toute évidence, ça c'est un honte. On parle beaucoup de est-ce qu'on est obligé de le dire, pas le dire. On est obligé de dire, évidemment, qu'on a eu cette sentence-là, mais on n'a pas été condamné. Tu sais, il y a beaucoup là de sémantique verbale autour de l'absolution conditionnelle et inconditionnelle, mais c'est sûr qu'il va avoir une trace. Donc, s'il dit rien, il n'a pas été condamné, par exemple. Mais je revenais à ce que vous avez dit, M. Arcand, parce que je m'en allais répondre à Maître Laure, qui, en fait, en soi, on n'était pas là, c'est vrai. Bon, est-ce que on a tous les éléments? Peut-être pas. Mais trois éléments, vous les avez soulignés. Blâmer sa conjointe pour son égarement, ça me dérange, parce qu'au niveau de la dissuasion personnelle, je pense qu'il l'a eu, sa leçon, mais au niveau de la dissuasion générale, là, pour lancer un message, puis moi, je reviens au terme bien simple. C'est quoi le message qu'on envoie avec ce genre? Et je suis d'accord avec Maître Laure. La sentence suggérée d'une sentence suspendue était-ce aussi clément? Probablement. Mais là, c'est une question de d'antécédents judiciaires et de divulguer ou non le fait qu'on va avoir un casier judiciaire. Ben, il va avoir des traces pendant 3 ans dans ce dossier-là. Puis le fait qu'il entretenait une hostilité envers les femmes, c'est l'article qui le dit dans la presse, et qu'il avait des intérêts sexuels déviants envers les ados. Ben, coudonc, ceci, à mon avis, ce serait des facteurs assez... Je sais pas comment il s'est dirigé, le juge, avec ces facteurs-là. Il semble ne pas en avoir parlé pour la sentence. Et ça me dérange, parce que je pense que il aurait fallu entendre tous les arguments, incluant ceux de questionnaire couronne. Je vous le dis, j'aurais questionné à couronne, moi. Pourquoi vous demandez ça? Puis je veux pas dire, c'est pas une recommandation commune. Je pense que Maître Laure va être d'accord avec moi. Une recommandation commune, on est pas mal plus attaché.
Non, mais on n'est pas loin, par exemple.
Ben non, ça c'est vrai, c'est sur la clémence.
Oui, sur la clémence, mais... c'est ça. Mais la grande question que les auditeurs se posent, là, avec une décision comme celle-là, je comprends qu'il y a un délai, mais est-ce que Simon Lamar peut retourner enseigner dans une école primaire ou secondaire du Québec, par exemple? Maître Laure, peut-être, je ne sais pas.
Ah, oh, pardon.
Ben, écoutez, si vous me permettez, ben, je suis d'accord avec Mme la juge. Là. On n'était pas là, on aurait pu avoir plus de détails, mais je ne connais pas les conditions de l'ordonnance de probation qui greffait l'absolution. Probablement que dans ces conditions-là, il doit avoir une condition lui interdisant de retourner enseigner dans les écoles secondaires. Il semble avoir un certain savoir, je ne sais pas lequel, qui aurait probablement convaincu le juge qu'il pourrait s'en servir, mais fort probablement qu'il y a des interdits, certainement, par rapport à un risque potentiel pour que, évidemment, le message soit passé. Mais je reviens sur un point important. Vous savez, l'absolution, là, on dit l'absolution, bon, c'est pas une bénédiction, là. L'absolution, il y a des conséquences. Madame la juge l'a bien souligné, là. C'est pas nécessairement que tout s'efface, là. C'est un dossier judiciaire. C'est l'impact. Évidemment, puis t'es pas obligé de demander de pardon au bout de 3 ans à la fin de l'approbation. Il y a des conséquences, là. Tu peux pas rentrer aux États-Unis. Les employeurs peuvent ne pas t'engager. C'est pas nécessairement l'effet, pas que ça efface tout puis qu'on part dans la société normalement, là. C'est pas ça du tout, là. Il y a beaucoup plus d'impact qu'on peut penser dans une absolution.
OK, mais si on lui accorde l'absolution en raison de ses grandes compétences, êtes-vous en train de me dire que ses grandes compétences pourront pas servir?
Ben, je vous dis pas ça, c'est parce qu'on prend des extraits là, de ce que les journalistes ont écrit par rapport à ce qu'on veut interpréter, mais le juge était convaincu que dans ce cas-là, la balance, Madame la juge l'a bien dit, il a supposé l'ensemble des circonstances, puis il a convenu que cette personne-là serait mieux sans avoir de condamnation pour pouvoir continuer, j'imagine, soit dans la recherche ou l'enseignement. Mais encore une fois, j'aurais bien aimé, je les ai pas, on les a pas, savoir c'est quoi les conditions qui sont rattachées à l'ordonnance de probation. C'est sûr qu'il y a des interdictions, des limitations.
À suivre, on va essayer d'avoir parce que c'est un jugement oral là, qui a été rendu. Merci beaucoup à tous les deux, Maître Conrad Laure, qui est avocat criminaliste, et Nicole Gibault, que vous connaissez, ex-juge de la Cour du Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler maintenant des CPE. Beaucoup de parents là, qui se demandent, y arrive quoi? On sait que la négociation se poursuit, en tout cas qu'il y a des discussions. Certains syndicats ont donc des mandats de grève générale illimités, dont dans un cas, ça s'applique demain. Puis là, les parents nous disent, on va le savoir quand, si demain, il n'y a pas de service de garde. Stéphanie Vachon est la représentante des CPE pour la CSN. Madame Vachon, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Et Valérie Grenon également, à qui on a parlé à quelques reprises pour la CSQ. Bonjour, Madame Grenon.
Bonjour.
Je commence avec vous, Madame Vachon. Là, vous négociez aujourd'hui, vous avez négocié hier. Là, où vous en êtes?
Oui, on a rencontré la partie patronale même dimanche soir, qui nous ont fait un retour et qui accepte là, de parler des autres clauses en attendant qu'on parle des salaires, des autres appellations d'emploi. Donc aujourd'hui, on va négocier toute la journée. Un des grands enjeux dans les autres clauses qui nous restent à négocier, ce sont les ratios. Et on a une fin de non-recevoir de la part de la partie patronale pour les ratios. Donc, le temps qu'on s'entende là-dessus, puis qu'on se rende à la discussion sur les salaires des autres appellations d'emploi, je dois dire que probablement qu'on va maintenir la grève demain.
OK, mais Mme Vachon, là, avec le respect qu'on peut avoir pour les demandes puis les conditions de travail, vous ne trouvez pas que c'est un peu short notice pour parler français, là, d'avertir les parents peut-être ce soir à 8 heures que demain, il faut qu'ils se débrouillent?
Non, on les a avertis vendredi dernier qu'on avait pour objectif de démarrer la grève générale illimitée demain, à moins d'un avis contraire. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis contraire. Je ne croirais pas en avoir d'ici ce soir. J'ai peu d'espoir.
Fait que dans le fond, vous leur donnez 3-4 jours là, pour s'organiser depuis vendredi.
Oui.
Vous trouvez que c'est beaucoup?
Non, c'est pas nécessairement beaucoup. À date, on avait toujours donné une semaine d'avis avant de faire une journée de grève.
Mais pourquoi vous l'avez
là,
pas fait?
On était à 5 jours.
Pourquoi vous l'avez pas fait?
Parce que de plus en plus que la négociation avance, on sent que la mobilisation s'intensifie. Notre objectif, c'est pas de mettre les parents dans le trouble. Notre objectif, c'est de faire pression sur la négociation puis avancer pour qu'on puisse enfin avoir un règlement.
OK, mais vous pensez pas que vous mettez des parents dans le trouble? C'est quoi de donner une semaine si vous l'avez fait depuis le début? Puis là, vous voulez pas le faire?
Bien, en fait, on a donné quand même un bon 5-6 jours. On est presque à une semaine. Comme je vous dis, les parents, là, dès que le service de garde est fermé, il faut qu'ils s'organisent de toute façon. Donc, entre 5 jours d'avis ou 7 jours d'avis, là, la différence n'est pas si grande pour les parents. Il faut quand même qu'ils s'organisent.
C'est votre lecture. Madame Grenon, de votre côté, vous en êtes où là dans les pourparlers?
Comme Madame Vachon, nous également, on a négocié dimanche, on a négocié hier, très intensivement, je vous dirais, assez pour laisser la porte à encore des journées de négociation. Nous, dans les jours qui s'en viennent aujourd'hui et demain, nos porte-paroles vont se parler, mais il y a beaucoup de travaux qui vont se faire de chacun des côtés et on va se revoir jeudi là pour poursuivre la négociation. Mais ça a bougé. Est-ce que ça bouge du bon bord? On le saura là bientôt, mais on trouve qu'on a encore la place à négocier avant d'utiliser notre mandat de grève là, général illimité.
OK, ça veut dire que vous ne sortez pas de main, là?
Non, pas du tout. La CPEC-CSQ ne sort pas de main. On est quand même solidaires avec nos collègues de la CSN, mais demain, nos CPE seront ouverts.
OK, puis vous donnez, on s'en est parlé un peu l'autre jour, là, un avis de combien de jours aux parents avant de tomber en grève générale illimitée, si vous le faites?
Nous, c'est sûr qu'on va souhaiter, comme on a fait depuis le début, donner le plus de temps possible. La dernière fois qu'on s'est parlé, monsieur Arquet, vous me demandez si j'étais capable de confirmer une semaine. On va essayer, mais je ne pense pas. Tout va dépendre de la négociation de jeudi. Mais c'est clair que le mot que je dis aux parents, c'est on essaie de tout faire pour éviter la grève générale illimitée actuellement, puis on va continuer à le faire.
Est-ce que je comprends que si vous allez en grève générale illimitée, ce sera la semaine prochaine, pas avant?
Ah, c'est sûr que c'est pas cette semaine, je peux vous le confirmer.
OK. Est-ce que, puis Mme Vachon, je vous pose la question à vous aussi, là, il y avait l'enjeu là de par exemple, la rémunération, les augmentations pour les éducatrices et la différente rémunération ou augmentation, c'est-à-dire pour les autres, là, les employés d'entretien, cuisine, administration. Le gouvernement a dit, nous, c'est beaucoup plus aux éducatrices, puis c'est la même politique que pour l'ensemble des employés. Pour ce qui est des CPE. Est-ce que là-dessus, il y a eu des changements? On est toujours à la même place, Mme Vachon?
On est toujours à la même place. Il n'y a pas eu aucune proposition pour les autres appellations d'emploi.
OK. Puis même chose pour vous, Mme Grenon?
Oui, ça n'a pas bougé. Malheureusement, c'est dommage parce que M. Legault, lui, il bouge. Lui, vendredi, il annonçait vouloir offrir la même chose que le secteur public. Malheureusement, c'est pas encore descendu là, en table de négo.
OK, on a entendu le mot « loi spéciale ». Est-ce que ça vous fait peur que le gouvernement se revire de bord puis décrète les conditions puis impose une loi spéciale? Mme Vachon?
Pas pour l'instant, non, parce que pour imposer les conditions de travail par une loi spéciale, ce serait vraiment d'enlever le droit de grève aux travailleuses. Puis il n'y a pas de danger imminent là, pour la clientèle, les parents, les enfants. Donc, je ne vois pas comment ce serait applicable.
OK, Mme Grenon, votre commentaire là-dessus?
C'est sûr que ce qu'on on la souhaite pas, on la souhaite pas pour une chose, ça va démoraliser les troupes, pas de faire le mouvement de grève, de démoraliser les troupes, de rester dans le réseau. Je pense que ça va être un message clair qu'ils ne respecteraient pas les travailleuses en CPE, les salariés en CPE. Donc, on va souhaiter que M. Legault ne s'en aide pas là vers la solution, mais il a trouvé quand même sa solution d'améliorer les conditions de travail des autres corps d'emploi.
Merci beaucoup. Stéphanie Vachon, donc représentante du secteur des CPE pour la CSN, et Valérie Grenon, même secteur, mais pour la CSQ. Ce qui veut dire que pour les nombreux parents qui m'écrivent, là, c'est à peu près certain demain si votre CPE est affilié, enfin les travailleurs sont affiliés à la CSN, ben, on est parti pour une grève générale illimitée. Pour ce qui est de la CSQ, vous avez un répit jusqu'à la semaine prochaine, mais mettons qu'il faut y aller avec un plan B, en tout cas y penser. Puis je le sais, là, quand on est peut-être syndiqué avec des congés, ça peut jusqu'à un certain point s'aménager, mais moi je peux vous dire qu'il y a bien des travailleurs autonomes qui là trouvent pas ça comique pantoute, parce que faut rester à la maison avec l'enfant, peut pas le faire garder, peut pas l'envoyer dans un CPE, puis j'ai pas un grand-parent qui peut dépanner, puis tu sais, tout ça, là. Donc, ce sont des pertes de revenus. C'est un beau être solidaire sur le fond, mais à un moment donné aussi, là, c'est toi qui payes la facture comme parent. Puis souvent, est-ce que je refuse un contrat demain, après-demain, parce que là, la grève va arriver? T'sais, il me semble que minimalement, donne une semaine aux gens pour s'organiser.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Très bien. Environ une soixantaine de cerfs de Virginie seront abattus, ceux qui se trouvent dans le parc Michel Chartrand. On se souvient du débat très émotif la dernière fois. Et là, c'est une table de concertation qui a déposé son rapport. La mairesse de Longueuil est avec nous, Catherine Fournier. Madame Fournier, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Donc, on va euthanasier combien de cerfs de Virginie exactement?
C'est impossible à dire actuellement parce que le dernier décompte des cerfs a eu lieu au printemps dernier avant la mise à bas. Donc, on ne sait pas précisément combien de cerfs de Virginie se trouvent maintenant au parc Michel Chartrand. On peut penser que c'est une centaine et malheureusement, là, la capacité du parc se trouve davantage autour là, d'une dizaine. Alors, il va devoir y avoir un décompte pour qu'on sache combien. Puis, ça peut se faire en plusieurs opérations. Ça aussi, ça va être à déterminer. Puis, c'est certain qu'à long terme, on veut éviter le recours à cette option-là qui devrait être la dernière alternative parce que là, bon, il en va de l'équilibre écologique du parc. Mais à plus long terme, il y a d'autres options qui vont être analysées comme la stérilisation, par exemple, pour ne pas avoir à revivre cela chaque année.
OK. Mais concrètement, là, si je résume votre équation, là, sans doute en quelques étapes, vous voulez réduire d'à peu près 80 cerfs de Virginie. Ça veut dire 80 bêtes qu'on va euthanasier. C'est ça, là, juste qu'on se comprenne bien?
C'est possible que ce soit ça, effectivement.
Mais quand vous dites c'est possible, ça va être ça, non? Est-ce qu'il y a une autre, c'est quoi les autres options?
Non, mais je veux dire, ça va être ça, bien sûr. Ça va être okay. La capture euthanasie. C'est plus au niveau du nombre là, que je ne peux pas, évidemment, confirmer.
OK. L'autre chose, il y a eu le débat la première fois. Évidemment, c'était sur le déménagement des bêtes ailleurs. Pourquoi cette option-là n'a pas été retenue?
Pour deux raisons principalement. D'abord, les vétérinaires et les experts qui ont été consultés ont dit en fait qu'il y aurait davantage de souffrance animale probablement parce que le stress a un effet paralysant sur les cerfs qui par la suite là, deviennent des proies beaucoup plus faciles lorsqu'ils ne meurent pas dans l'opération. Donc la méthode de capture euthanasie était moins souffrante pour les animaux. Et également, mais il n'y a pas nécessairement de refuges qui peuvent accueillir un aussi grand nombre de cerfs parce que là, maintenant, on parle de plusieurs dizaines. On n'est plus à la quinzaine dont il était question l'année dernière. Et le deuxième facteur principal, c'est la maladie de Lyme qui est très présente ici en Montérégie. Alors, si on déplace les cerfs dans d'autres régions du Québec, ben là, on risque en fait de déplacer également la maladie, là, ce qui est évidemment très problématique.
Bon, vous savez, autant que moi, que la dernière fois, c'était extrêmement émotif. C'est quand je dis émotif, là, c'était même les extrêmes des messages de menaces. des défenseurs des droits d'animaux là, qui étaient aux barricades là-dessus. Ma question va être bien simple. Allez-vous tenir votre bout ou si vous attendez là, à avoir des vagues de pression?
Nous, on entend maintenir le cap. C'est une décision qui est basée sur la science. Il y a eu de la concertation des citoyens qui ont été impliqués dans le processus, des experts, des scientifiques. On n'est pas de gaieté de cœur à prendre cette décision-là aujourd'hui, mais je pense que c'est important qu'on suive les recommandations de la table. Et c'est également une question éthique parce qu'à l'heure actuelle, les cerfs ne sont pas dans de bonnes conditions au parc Michel Chartrand. Ils sont sous-alimentés, ils souffrent de malnutrition. Donc, puis c'est également une question, comme je le disais, d'équilibre écologique. Donc, leur surpopulation affecte également d'autres espèces animales. Donc, c'est vraiment l'équilibre de l'écosystème qu'il faut tenter de maintenir.
Semble-t-il que vous avez des problèmes aussi avec les bernaches?
Effectivement, il y a plusieurs, espèces qui sont en surpopulation. Il y a également des espèces exotiques envahissantes qui sont de plus en plus nombreuses en raison des changements climatiques. Donc, moi, j'invite les citoyennes et les citoyens à lire le rapport qui est maintenant disponible de façon très transparente sur le site web de la ville de Longueuil pour comprendre les différents facteurs qui expliquent le déséquilibre dans le parc. La surpopulation de cerfs, c'est seulement un facteur explicatif. Il y en a plusieurs autres. Il va y avoir une sensibilisation beaucoup plus large de la population aussi sur les bons comportements à adopter dans le parc. Puis ça, ce sera le cas là, dans les prochains mois avec les équipes de communication de la ville.
OK. Est-ce que je vous ai bien compris? Est-ce que vous avez parlé d'espèces exotiques?
Oui, en fait, comme le nerprun, par exemple, qui est une plante envahissante et exotique qui se répand dans le parc.
Ah oui. Dans le fond, les humains aussi dérangent. Je fais une blague, là, mais vous me parlez de leur comportement avec les animaux. Ils nourrissent les propriétaires autour. C'est sûr que la cohabitation n'a pas l'air simple.
Effectivement, puis il y a une hausse de la fréquentation du parc dans les derniers mois avec la pandémie. Donc, il y a des comportements même qui ont changé, d'où l'importance de la sensibilisation.
Merci, Mme Fournier. Bonne journée.
Merci à vous.
Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.